Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Bonjour à toutes et à tous. Dans une demi-heure, vos réactions et vos commentaires sur les discussions intermaliennes d'Alger. La semaine dernière, je vous le rappelle, les groupes armés du Nord et les représentants de l'État malien sont tombés d'accord sur une feuille de route en vue d'une solution négociée à la crise. Un calendrier de négociation a été fixé. Il s'agit d'un premier succès pour Alger. Il sera suivi d'une prochaine rencontre au cours du mois d'août, le mois prochain donc. Objectif, parvenir à la signature d'un accord pour une paix durable au Mali. Est-ce que ce premier pas est déterminant selon vous? Que pensez-vous de l'implication de l'Algérie dans la résolution de cette crise? Pour en débattre, vous nous rejoignez, vous connaissez le principe, 39 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, et comme chaque jour, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité avec Hakim qui est en ligne à Dakar. Bonjour Hakim.
Bonjour monsieur Jefferin.
Bienvenue Hakim, vous êtes à l'antenne, vous avez des questions concernant l'audition du capitaine Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte militaire guinéenne. On vous écoute.
Tout à fait monsieur Kouadio, et je vous souhaite la bienvenue à Dakar.
Merci.
Voilà, en fait j'ai une série de questions concernant le capitaine Dadis Camara. Voilà, la première, je voudrais savoir pourquoi le capitaine Dadis a été auditionné par des juges burkinabés commis à la tâche et non pas directement par le pool de trois juges guinéens.
Par la justice guinéenne. C'est la première question. Oui, on va déjà répondre à cette première question. Et pour vous répondre, Hakim, c'est Olivier Roger du service Afrique que j'accueille. Bonjour Olivier.
Bonjour Zéphirin, bonjour Hakim.
Alors Olivier, juste rappeler que la justice guinéenne a reçu le procès verbal d'audition du capitaine Dadis Camara, audition réalisée le 23 juillet. L'ex-chef de la junte a donc été entendu comme témoin dans le dossier des massacres au stade de Conakry. C'était en septembre 2009, lors d'une manifestation. Je parle sous votre contrôle, Olivier.
Oui, pour l'instant, vous ne dites pas d'erreur. Allez-y, continuez,
c'est fermé. Lors d'une manifestation, c'est pas drôle. Lors d'une manifestation de l'opposition, manifestation violemment réprimée, près de 160 morts, une centaine de viols. Alors, Olivier, pourquoi est-ce un juge burkinabé qui a auditionné Moussa Dadis Camara alors que l'enquête est instruite par la justice guinéenne?
Pour répondre, il faut revenir un petit peu en arrière. Depuis janvier 2010, après son hospitalisation au Maroc suite à une tentative d'assassinat de Toumba Diakité qui est consécutive à cette affaire du stade, Dadis Camara est réfugié au Burkina Faso. Son départ a été salué d'ailleurs par la communauté internationale et africaine qui ne savait plus trop quoi faire avec le capitaine Dadis Camara qui était le chef de la junte. En février 2010, la justice guinéenne a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ce massacre du 28 septembre 2009. 300 personnes, 300 témoins ont été entendus, peut-être même plus à l'heure où je vous parle, et 8 militaires ont été inculpés. Dadis, lui, n'a pas été formellement mis en cause, vous l'avez dit, mais les juges souhaitent l'entendre et ont souhaité à plusieurs reprises. Comme Dadis Camara ne veut pas rentrer à Conakry pour répondre aux juges, eh bien en avril 2011, une première commission rogatoire est adressée à la justice burkinabé, c'est-à-dire que les juges guinéens vont demander à un juge burkinabé de faire le travail pour eux, c'est-à-dire d'aller lui poser une série de questions. Mais cette commission rogatoire est restée sans réponse. Une deuxième est émise début 2013. Et finalement, ce magistrat burkinabé va pouvoir entendre Dadis, lui poser les questions adressées par ses confrères guinéens. Dadis Camara, je vous le rappelle, et vous l'avez dit, est entendu à titre de témoin pour l'instant. Et contrairement à d'autres personnes, d'autres piliers de la junte de Dadis Camara, comme Claude Pivier et Thiéboro Camara, il n'est pas mis en examen.
Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit au juge?
Alors, c'est le secret de l'instruction et ce secret de l'instruction oblige. Nous n'avons aucune réponse puisque nous n'avons pas accès au dossier. Cependant, on peut réfléchir et spéculer. Si vous vous souvenez, Zéphirin, ce qui a amené Toumba Diakité à tirer sur Moussa Dadis Camara fin 2009, c'est le fait que ce dernier rejetait sur lui l'entière responsabilité du massacre du stade du 28 septembre. Et Dadis Camara l'a fait notamment devant les juges de la Cour pénale internationale qui étaient envoyés à Conakry. Par la suite, Toumba s'est enfui. Si donc, dès 2009, Dadis veut lui faire porter le chapeau, on ne voit pas pourquoi depuis il aurait changé de version, d'autant que Toumba est en fuite. On imagine donc que Dadis a dû expliquer au juge que c'est Toumba qui dirigeait les opérations au stade, ce qui est en partie la vérité d'ailleurs, comme ce qui est vrai d'ailleurs, c'est aussi que ce même Toumba Diakité a sauvé certaines personnalités politiques d'une agression de la part de soldats. Bref, toujours est-il que pour Dadis Camara, qui cherche sans doute à minimiser son rôle en tant que chef de la junte, son rôle décisionnaire dans ce massacre, pour Dadis Camara, Toumba reste sans doute le bouc émissaire commun, mais je le rappelle, on n'a aucune certitude puisque nous n'avons pas accès au dossier.
Hakim, vous avez une deuxième question, on vous écoute.
Voilà, pouvons-nous parler d'une réelle volonté des autorités guinéennes de faire la lumière sur ce massacre du 28 septembre et de rendre enfin justice aux victimes?
Les juges ont-ils la volonté? C'est une bonne question. En tout cas, ils travaillent puisqu'ils ont déjà auditionné plus de 300 personnes, des témoins. Ils ont mis en examen 8 hauts gradés de l'armée. Ils travaillent, mais ils travaillent trop lentement de l'avis général, notamment de l'avis des victimes et des défenseurs des droits de l'homme. Pourquoi travaillent-ils si lentement? Parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Pas seulement les conditions matérielles, mais surtout les conditions politiques, l'environnement politique. Il existe des pressions terribles. Dans ce pays où l'impunité règne en maître, où les militaires ont un pouvoir important, les juges doivent adapter leur méthode. C'est ce qu'expliquait récemment un défenseur des droits de l'homme. Vouloir aller trop vite, trop brusquement, risquerait de créer tellement d'obstacles que la procédure n'avancerait plus du tout. Mais un excès de prudence n'est pas non plus une bonne réponse, et c'est pourquoi la Cour pénale internationale maintient sa pression en avertissant régulièrement les autorités judiciaires qu'elles doivent avancer. Et cette pression a d'une certaine façon Zéphirin permet de faire avancer les choses, car les Guinéens se rendent bien compte que si rien n'avance, la CPI va récupérer l'affaire. Ils seront dessaisis, dépossédés de ce dossier. Or, ce serait un camouflet incroyable pour ce pays, un constat d'échec terrible pour le nouveau pouvoir. Cette affaire est devenue, pour les nouvelles autorités guinéennes, un enjeu extrêmement important. C'est à la fois l'image du pays sur la scène internationale qui est en jeu, et aussi, d'une certaine façon, la capacité des autorités guinéennes à juger les crimes commis depuis l'indépendance, les crimes commis sur leur territoire, à mettre en route, à remettre en route la machine judiciaire, la capacité à épurer le passé et à inaugurer une nouvelle ère. Voilà pourquoi l'actuel ministre de la justice, Cheikh Sakho, qui semble être conscient de tous ces enjeux, a remis la pression au début du mois de juillet. Il multiplie les signes positifs et il affirme à qui veut l'entendre que la justice guinéenne doit faire et fera son travail dans l'affaire du 28 septembre.
Voilà un éclairage pour vous, Hakim. Donc, retour au standard. Hakim, vous avez une autre question. Nous vous écoutons.
Voilà, là, il vient juste de répondre à ma troisième question. Donc, du coup, je vais vous donner la quatrième.
La quatrième. Allons-y alors pour la quatrième.
Voilà, il faut aller, comme il a souligné, 8 gradés de l'armée guinéenne ont déjà été inculpés par le pool de 3 juges.
Oui.
Sans jamais être entendu ou inquiété. Qu'est-ce qui explique cela?
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre, Olivier?
Alors,
à ça,
ce qui explique cela, c'est d'abord, ils ont été inculpés parce que les juges ont recueilli des témoignages qui les mettent en cause. Si on prend par exemple le capitaine Claude Pivy, inculpé en juin 2013 pour meurtre, viol, pillage, incendie et coups et blessures volontaires, on sait qu'il n'était pas au stade le 28 septembre, mais des témoins ont raconté aux juges que dans les jours qui ont suivi, Claude Pivy était à la manœuvre pour les opérations de répression qui ont duré plusieurs jours dans les quartiers, qui ont été d'une violence extrême, et c'est pourquoi, en raison de témoignages concordants, les juges l'ont inculpé. Thiboro Camara, lui, par exemple, était au stade, il aurait dirigé en compagnie d'autres hauts responsables militaires, les Bérets Rouges, qui ont mené ces opérations absolument terribles, et ce que la communauté internationale, et notamment la commission d'enquête onusienne, a qualifié de crime contre l'humanité. Pourquoi n'ont-ils pas été entendus? Parce que, d'une part, Claude Pivy n'a pas souhaité, pour l'instant, répondre. Et on imagine bien que les juges vont désormais le reconvoquer. On ne sait pas quand cela va se produire, mais le ministre de la Justice a affirmé au début du mois de juillet que toutes les personnes et tous les militaires qui devaient être entendus par la justice le seraient. On est dans cette phase où, à un moment clé, où les pressions politiques sur la justice commencent à être moins fortes, où le ministre de la Justice met au contraire la pression pour que les choses avancent, et où la Cour pénale, elle aussi, pousse dans le même sens. Donc on espère qu'avant, peut-être le début du mois de septembre, les choses auront avancé de façon décisive dans ce dossier.
Ce qui nous emmène à la dernière question, Hakim, très rapidement, votre dernière question.
Voilà, ma dernière question était celle de savoir si on peut s'attendre à ce que le capitaine Dadis soit jugé en Guinée.
Est-ce qu'il sera éventuellement inculpé puis jugé en Guinée ?
Pour l'instant, il n'est pas inculpé. Il est simplement témoin. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi il n'est pas inculpé. C'est une question à laquelle les juges vont devoir répondre. Cependant, la procédure n'est pas terminée, on l'a dit. Les juges doivent encore entendre un certain nombre de personnes, les hauts gradés qu'ils ont mis en examen, pour certains qui n'ont pas encore répondu. Peut-être qu'à la fin de cette procédure, je dis bien peut-être, les juges estimeront nécessaire de mettre en examen l'homme qui était le responsable du CNDD, c'est-à-dire la junte qui dirigeait le pays à ce moment-là. Pour l'instant, mystère, on ne sait pas si Dadi sera inculpé, on ne sait pas non plus à quelle date il y aura un procès. Tout ça est du ressort de la justice guinéenne.
Affaire à suivre, et c'est Olivier Roger qui suit ce type d'affaires, en tout cas en ce qui concerne la Guinée, pour la rédaction de RFI. Merci infiniment Olivier pour cet éclairage. Merci à vous Hakim pour vos questions. On repasse par le standard avec Olivier qui est en ligne à Abidjan. Bonjour Olivier.
Bonjour Monsieur Zéphirin et bonjour à tous les auditeurs du RFI.
Bienvenue Olivier, vous avez des questions sur la politique migratoire de l'Union Européenne. Nous vous écoutons.
Exactement. Alors, on assiste en ce moment à la recrudescence des accidents maritimes de bateaux de fortune, faisant de nombreuses victimes parmi les candidats à l'immigration vers l'Union européenne. Alors, trois préoccupations. Pourquoi l'Union européenne, avec le moyen de l'agence Frontex, ne parvient toujours pas à éviter les accidents tragiques connus ces derniers temps, comme se produisent les derniers jours passés?
Oui. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres questions là-dessus? On vous écoute.
Oui, exactement. Quelle coopération existe-t-il entre les pays du sud de la Méditerranée et ceux de l'Union européenne en matière de politique immigratoire?
D'accord. Allez-y.
La dernière, quelles sont les sanctions qui sont prévues contre les passeurs?
Les sanctions pour lutter efficacement contre les passeurs, c'est Juliette Gerbrand du service international qui vient de nous rejoindre, qui va vous répondre. Bonjour Juliette.
Bonjour Zéphirin, bonjour Olivier.
Alors juste un petit rappel, au cours des 15 dernières années, on le sait, la Méditerranée est devenue un véritable cimetière pour les candidats à l'exil, originaire principalement des pays d'Afrique. Alors pourquoi l'Union européenne, avec les moyens de l'agence Frontex, ce qu'on nous demande Olivier, n'y arrive pas?
Bon, ben d'abord parce que Frontex n'a aucune mission de sauvetage. C'est une agence qui met en commun les polices des différents pays de l'Union européenne pour surveiller les frontières. Mais il existe une mission de sauvetage maintenant, c'est Mare Nostrum, un dispositif qui a été mis en place au lendemain du drame de Lampedusa en octobre dernier. Alors c'est vrai que Mare Nostrum, Olivier, n'a pas permis d'éviter qu'il y ait encore des naufrages, mais le dispositif a secouru plus de 73 000 personnes en un peu plus de 8 mois, c'est-à-dire 270 par jour.
C'est une initiative italienne, il faut le préciser.
Oui, et c'est l'Italie qui réalise et qui porte l'essentiel du dispositif, un dispositif d'urgence au départ. Alors fin juin, Rome a demandé à ce que Bruxelles le prenne en charge, mais en fait, il y a des désaccords à Bruxelles sur ce sujet. Si un bateau norvégien, par exemple, sauve des personnes en haute mer, c'est la Norvège qui doit les prendre en charge. Si c'est un bateau français, c'est la France. Alors, vous l'imaginez, beaucoup de pays hésitent.
Justement, quelle coopération existe justement entre les pays du sud de la Méditerranée et l'Union européenne?
Alors, il y a surtout des accords bilatéraux, des accords de admission pour renvoyer les migrants sur le sol de départ. Au niveau européen aussi, il existe des partenariats avec le Maroc ou la Tunisie, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, on demande à ces pays de reprendre sur le sol tous les migrants qui sont partis de chez eux et de les renvoyer dans leur pays de départ, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, ce qui a un coût colossal et qui pose des problèmes diplomatiques. Souvent, les pays de départ ne sont pas d'accord. Les ONG disent que l'Europe, en fait, externalise le problème. Enfin, il existe aussi une coopération européenne directe avec les pays subsahariens, mais là aussi c'est très compliqué. Comment voulez-vous empêcher des jeunes de vouloir fuir des dictatures ou des pays en guerre?
Et puis une dernière question très intéressante, avec une réponse concise si possible, Juliette. Quels sont les moyens de sanctions contre les passeurs?
Écoutez, en fait, ça va être rapide, il y en a très peu. Depuis le lancement de Mare Nostrum, 300 passeurs ont été capturés. Mais en fait, lutter contre les passeurs, c'est surtout lutter contre la criminalité organisée, puisqu'il existe un véritable business du trafic d'êtres humains d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire y compris sur le sol européen.
Explication signée Juliette Gerbrand du service international. Merci beaucoup Juliette. Merci à vous Olivier pour toutes ces questions. On repasse par le standard pour un autre sujet et d'autres questions. C'est Léonard qui est en ligne à Dakar. Bonjour Léonard.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, j'ai appris à travers les antennes de RFI que les armes qui ont été confiées à l'ONU dans le cadre du démantèlement du fonds national chimique, seront démantelés aucune partie en Finlande et en Allemagne et une autre en haute mer.
Mmh.
Pour cela, j'ai trois questions à vous poser.
Mmh.
Tout d'abord, pour la première question, comment se déroule là, le processus de démantèlement de ces armes chimiques?
Mmh.
Et pour la deuxième question, pourquoi des opérations en haute mer?
D'accord.
Et pour la troisième, et sur les risques et dangers environnementaux et notamment sur les populations par rapport au démantèlement sur les sites.
D'accord. Merci beaucoup, Léonard. La ligne n'était pas excellente. On va accueillir Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique de Paris, spécialiste des armes chimiques. Olivier Lepic, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a appris effectivement récemment que la totalité de l'arsenal chimique remis par le gouvernement syrien était arrivée sur les sites de destruction. Selon l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, cet arsenal serait en cours de destruction. Quelle est la quantité de ces produits et comment se déroule techniquement leur destruction?
Alors, il s'agit d'une quantité relativement importante, 1300 tonnes d'agents chimiques et de précurseurs. Une partie d'entre eux sont effectivement en cours de destruction dans un navire américain dans les eaux internationales en Méditerranée pour environ 600 tonnes. Et une autre partie de produits moins dangereux sont en cours de destruction également dans des infrastructures civiles dans des pays européens, effectivement, dont la Norvège et le Danemark et la Hollande. Mmh. Et à ce jour, sur ces 1300 tonnes d'agents chimiques, eh bien, environ 32% ont été détruits. Ce chiffre date il y a quelques heures à peine.
D'accord. Alors pourquoi les opérations se déroulent-elles dans un premier temps en haute mer, comme nous le demandait Léonard?
Alors pour les agents les plus dangereux, effectivement, dites de catégorie 1, ces opérations se déroulent en haute mer pour une raison très simple. C'est d'abord qu'aucun pays n'a accepté que ces produits, en tout cas les plus dangereux d'entre eux, soient acheminés sur leur territoire. On se souvient qu'un certain nombre de pays avaient été démarchés, dont l'Albanie, qui ont refusé pour des raisons évidemment liées au danger de cette destruction et au refus des opinions publiques de ces pays de recevoir ces produits. Mmh. Cette destruction a été, je dirais, sous-traitée aux États-Unis, qui est donc un pays qui a un savoir-faire et des moyens importants. Et pour ne pas avoir, je dirais, à stocker durablement ces produits sur un territoire national, eh bien, les Américains ont choisi un mode de destruction un petit peu novateur. Mmh. Ils ont installé sur un roulier qui s'appelle le Cape Ray, c'est un navire relativement important, deux centrales d'hydrolysation qui vont donc assurer la destruction de ces agents en haute mer. Cette destruction a commencé au large de la Crète, dans les eaux internationales depuis quelques jours, et jusqu'à présent, je dirais que la destruction se passe plutôt correctement.
En une minute, Olivier Lepic, existe-t-il un risque pour l'environnement, notamment pour les populations proches de ces sites de destruction en Allemagne et ailleurs?
Alors, il y a toujours un risque, évidemment, quand on manipule ou quand on détruit des produits toxiques et particulièrement toxiques, comme évidemment des armes chimiques.
Oui.
Néanmoins, pour ce qui concerne la destruction en haute mer, les risques sont très limités, évidemment,
les populations.
Pour cause, il n'y a pas de population environnante. Les risques, je dirais, environnementaux, même s'ils sont dénoncés par un certain nombre d'organisations non gouvernementales, me paraissent extrêmement réduits, voire même quasi nuls, compte tenu, je dirais, du mode qui a été choisi. Pour ce qui concerne les destructions à terre dans des sites industriels, eh bien ces sites sont souvent classés, on connaît le type de classement Céveso en France, et donc ce sont des professionnels de ces industries qui vont œuvrer à cette destruction, et les risques existent certes, mais ils sont relativement limités.
Merci infiniment Olivier Lepic, je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris, spécialiste des armes chimiques. Merci de l'éclairage que vous venez de nous apporter en répondant aux questions de Léonard qui est en ligne à Dakar. Je rappelle que le gouvernement syrien avait accepté de livrer son arsenal chimique dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide des États-Unis et de la Russie. C'était en septembre dernier. Restez à l'écoute, on se retrouve dans 10 minutes après le journal pour vos réactions et vos commentaires sur les discussions intermaliennes d'Alger. La semaine dernière, je vous le rappelle, les groupes armés du Nord et les représentants de l'État malien sont tombés d'accord sur une feuille de route en vue d'une solution négociée à la crise malienne. Un calendrier de négociation a été fixé. Il s'agit d'un premier succès pour Alger. Il sera suivi d'une prochaine rencontre au cours du mois d'août. Vous nous retrouvez dans la seconde partie d'Appel sur l'actualité pour en débattre. A tout de suite.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.